On se propose dans la suite de notre série d'études sur l'Évangile selon Luc. Donc vous vous rappelez qu'aujourd'hui on est dans un premier bloc un peu d'introduction. On avait fait une introduction générale avec Thibaut. On va voir maintenant quelques thèmes un peu transversaux du livre. Et puis donc aujourd'hui c'était de voir en fait l'humanité de Jésus qui est particulièrement mis en avant dans cet Évangile selon Luc. Et ça croisait en fait une réflexion qu'on s'était faite aussi sur le fait personnel, hein, sur le fait peut-être que ces derniers mois, mais ça, on avait un petit peu moins traité d'épisodes dans le détail de la vie de Jésus. Et à titre personnel, c'est que j'ai toujours un peu cette tendance, ce risque à un peu trop conceptualiser ma foi, de l'assécher un peu. Et quand on a ce retour à la personne de Jésus, en fait, à l'Évangile incarné, eh bien, ça peut redonner de la chaleur, un encouragement aussi à le vivre de manière plus proche. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de ça ce matin déjà dans notre moment de culte. Donc c'est sans doute un premier souhait, un premier objectif. Et puis parler de l'humanité de Jésus, c'est aussi bien entendu un sujet théologique majeur parce que nous croyons en Jésus, 100% Dieu et 100% homme. Alors le but, je ne vais pas axer ça sur cette discussion un peu théologique parce que l'idée c'est plutôt de rester dans l'humanité telle qu'elle se déploie dans l'Évangile. Mais bien sûr en redisant, en réadmirant Jésus dans son humanité, on proclame ce qui est une vérité centrale de notre foi, une vérité centrale du message biblique, que Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. Donc c'est évidemment un deuxième grand objectif, un deuxième intérêt. Et puis j'ai dit, on va pouvoir admirer Jésus, et admirer Jésus, bah, c'est peut-être un troisième objectif, c'est que quand on se plonge dans cette humanité, dans ce qu'il a fait, eh bien ça nourrit aussi l'admiration, l'adoration pour un Dieu qui s'est fait homme complètement, parfaitement, et dont on voit combien Luc s'est plu à retracer le chemin, les épisodes, les émotions. Donc voilà, ce que je vous propose pour aborder cette humanité de Jésus à travers cet évangile, d'abord voir comment Jésus a vraiment vécu la condition humaine, et plus précisément, c'est comme ça en tout cas que je souhaite l'exprimer, mais toutes les dépendances qui sont associées. Donc d'abord en répertoriant un peu concrètement comment Jésus a rencontré ces dépendances, puis en voyant dans un deuxième point comment il les a acceptés, comment il les a vécus dans l'obéissance parfaite. Et dans un dernier point, je partagerai en ouvrant peut-être un petit peu au-delà de l'Évangile selon Luc, trois convictions quant à ce que cette humanité de Jésus est pour moi et que vous partagerez, j'espère. Donc, tout d'abord, sur ce premier point, en fait, pour voir l'humanité de Jésus, ce que je vous propose, c'est de se dire que Jésus, finalement, s'est confronté aux dépendances induites par la condition humaine. Alors, je réfléchis, souvent on dit c'est confronté aux limites aussi. Dépendance, ça peut paraître négatif. Pour moi, ce n'est pas uniquement négatif, c'est un état un peu. C'est l'état aussi que Dieu avait voulu pour l'homme. C'était un état heureux, mais en dépendance aussi de différentes dépendances, différentes contingences, on dit aussi parfois les limites. Donc, et on va voir plusieurs de ces dépendances-là, et donc voir la dépendance dans le fait même de vivre, la dépendance biologique, ontologique, dans les contraintes physiologiques qu'il a retenues, dans ses émotions, dans ses limitations dans le temps et dans l'espace, et puis dans la relation aux autres et une certaine dépendance aux autres. Voilà, donc on va voir ces différents points, toujours à travers des passages de cet évangile, pour voir un petit peu se déployer l'humanité de Jésus et la manière dont il a lui aussi connu, il a été soumis aux dépendances humaines. Alors c'est vrai évidemment de sa naissance, hein, et donc Luc nous parle de sa naissance. Alors on a plusieurs fois parlé ces derniers temps des deux premiers chapitres, mais voilà ce verset du 31: voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu mettras au monde. Voilà, Jésus, il est mis au monde, hein, il est amené dans le monde. Et on a gardé cette expression de mettre au monde, hein, ce qui est une belle expression. Ben voilà, Jésus a connu ça, a connu ce processus, et tu lui donneras un nom, voilà, il est nommé. Donc Jésus, dans cette naissance-là, dans la dépendance du nom aussi. Et puis après, Luc, plusieurs fois, dans ses deux premiers chapitres, eh bien, on voit qu'il y a un récit qui est assez détaillé, il insiste sur cette condition, sur cette appellation d'enfant. Si je relis là dans Luc au chapitre 2, hein, cette grande proclamation: dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. C'est quoi le signe? Qu'est-ce que ça va être? Un tremblement de terre? Une lueur? Non, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Le signe de l'apparition, le signe du Messie, c'est ce nouveau-né. Et puis là, il y a la gloire qui éclate, hein, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et plus loin, eh bien, on retrouve ça, ils se dépêchèrent d'y aller, les mages, ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que eh bien, le nouveau-né couché dans la mangeoire. Voilà. Luc reprend cette expression, il nous remet cette image encore de Jésus dans cette situation de nouveau-né. Un peu plus loin, quand il l'amène à Jérusalem, ils amenèrent le petit enfant Jésus. Donc on voit que Luc insiste à chaque fois pour nous dire, bah oui, c'était bien ça, quoi. Et il prend son temps hein, pour décrire cette naissance et cette enfance. Il met aussi en avant tout un contexte relationnel autour de cette naissance. Pour se dire, bon ben voilà, la naissance de Jésus, c'est important parce qu'on va droit au but vers le Messie, mais il se passe plein de choses autour. Et c'est vrai que Jean-Claude Charian, vous avez fait un très beau message sur tout ce qui se passe dans ces deux premiers chapitres de Luc, autour d'Élisabeth, autour de Marie, peut-être des peurs, des doutes, des choses qui aussi, tout le contexte relationnel. Je pensais à dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est quand même magnifique. En fait, Luc nous parle de ce qui commence à déjà se passer. Jésus est dans le ventre de sa mère. Il est déjà dans cette relation. Il procure déjà cette joie à cet autre enfant qui est là. Vous voyez que vraiment, Jésus a connu cette dépendance dans le fait de naître et de grandir, y compris dans le ventre de sa mère. Voilà. Donc, dépendant pour la vie en tant que telle. Dépendance aussi, bien sûr, de la mort, parce que Jésus a accepté d'aller jusqu'à la mort. Et dans Luc, voilà, il y a cette expression, hein, cette fin de cette vie terrestre de notre Seigneur. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Philippiens nous dit l'obéissance est l'obéissance jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Il a accepté de devenir mortel. Deux grandes dépendances. On est dépendant pour naître, pour arriver dans cette vie. On est aussi dépendant et limité par la mort, salaire du péché. Et Jésus a aussi expérimenté cela. Alors bien sûr, toujours avec c'est lui qui remet son esprit avec cette divinité, mais il a connu cette mort. Et puis plus largement, après sa naissance et entre sa naissance et cette mort, il a connu toutes ces contraintes physiologiques hein, qu'on connaît tous, la faim. On a dit qu'on va consacrer une séance à Jésus à table. On a beaucoup de repas dans la relation de Luc. Beaucoup de repas. Alors, c'était l'occasion, bien sûr, pour Jésus de partager, de passer son message, mais c'est aussi qu'il avait faim, quoi. Il mangeait. C'est l'occasion aussi de vivre cette vous voyez, ce qui est à la fois une contrainte et peut-être une joie aussi de l'être humain, des repas. Et puis, on sait, hein, on connaît bien ces il est dit, hein, clairement, il eut faim. Là, on reviendra sur l'épisode de la tentation, mais il ne mangea rien durant tous ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Contrainte physiologique. Jésus a été fatigué. On sait qu'il s'est endormi dans la barque. Et puis un peu plus loin, moi j'ai été frappé là en faisant quand il répond à quelqu'un qui l'interpelle, qui veut le suivre, et Jésus lui répond, c'est dans Luc 9 au verset 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. C'est passé un peu comme ça, il n'insiste pas là-dessus, c'est juste un constat. Mais je trouve qu'il y a presque une certaine pudeur là-dedans, mais quelque part, en tant qu'homme, pendant ces 3 ans où il a été complètement à son service, ça nous dit quelque chose de ce qu'il a accepté de vivre pratiquement dans ces 3 ans entièrement consacrés à son service, où il puisse reposer sa tête, c'est qu'il avait besoin de repos aussi. Il était aussi fatigué. Et puis Jésus a connu la douleur. On le voit surtout sur la fin, sur les moments qu'il conduit. Alors, on parlera tout à l'heure de ses émotions. On sait qu'à dans sa marche vers la croix, il y a à la fois de la souffrance physique et puis à la fois de la souffrance morale plus intérieure. Mais Luc rapporte ces détails dans ce jardin d'Éthémenée. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Cette angoisse qui se matérialise physiquement. Et puis cette douleur, bien sûr, dans tout ce qui lui a été infligé à la croix. On le voit par exemple hein, quand euh, Simon de Cyrène qui doit porter la croix de Jésus. On pense que c'est parce qu'il n'était plus en état de la porter. Cette douleur physique qu'il a connue pour nous. Et puis, l'humanité de Jésus, ce sont aussi ses émotions. Toutes les émotions en fait, par lesquelles qu'il a connu, par lesquelles il est passé. Alors, on peut parler... On voit un exemple dans Luc de la tristesse, hein, si on lit au chapitre 19 de Luc. Donc il s'approche de Jérusalem, et quand il s'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux, des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront, te serreront de tous côtés, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Et Jésus pleure, il est triste, il est profondément triste. Il n'est pas seulement dans une prophétie désincarnée, il est triste pour ce qui se passe. Et on voit dans cette région aujourd'hui, ces pierres détruites, ces immeubles détruits, ces gens qui sont frappés, qui sont déplacés, toute cette violence, toute cette souffrance. Jésus l'a vu là en avance pour Jérusalem et il pleure sur la ville, il pleure sur ceux qui vont connaître cela. Jésus aussi a connu de la joie. Dans Luc 10, hein, c'est pas bien loin après de ce que tu nous as lu aussi la semaine dernière. Et Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. » « Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Donc Jésus a connu la joie. Vous pensez que la joie de Jésus, ici, c'est la joie remplie de l'Esprit qui est une révélation. Hein. Ce n'est pas la quatrième médaille de Léon Marchand, mais on devine que dans son parcours, Jésus a eu ses joies d'abord imprégnées de sa mission, de ce qu'il avait, mais aussi sans doute les joies, on va venir après, de ses relations, de l'affection qu'il a vécue. Jésus a connu cette joie. Cette émotion aussi d'affection, d'élan. On vient de prendre ce repas et quand même chaque fois, c'est incroyable de se dire que ce repas-là que Jésus a voulu continuer à nous donner chaque dimanche pendant des millénaires, eh bien c'est ce repas où il a dit à ses disciples, Luc 22, verset 15, au moment de l'instauration de ce premier repas, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Donc ce désir, vivement désiré, et cette envie. Là encore, on peut se dire, Jésus, il met en place la scène qui va avoir lieu, voilà, le rituel qui va avoir lieu dans l'église. C'est ça. Et c'est aussi au moment où il le vit, cette émotion, ce désir de partager, ce désir aussi d'être accompagné par rapport à ce qu'il va vivre. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Et puis, il a connu aussi des émotions négatives, d'autres émotions négatives, et notamment la colère, l'indignation. Alors, je lis ici, dans Luc, on a plusieurs exemples. Dans Luc 11, à propos des pharisiens et de leur hypocrisie, hein. « Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Un peu plus loin, hein, sur le sabbat aussi. « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf, son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Et ses paroles remplirent de honte tous ses adversaires. » Et puis au chapitre 19, il chasse les marchands du temple. Jésus a connu ses colères, ses indignations. Alors on parle souvent de ses justes colères. Et très vite, on veut un petit peu basculer, je trouve, sur la nécessité de se rassurer. Non, mais Jésus n'a pas péché. Et c'est vrai, et c'est un exemple très précieux de comment se mettre en colère. Mais c'est bien aussi, je trouve, de rappeler que Jésus avait cette faculté, et puis cette émotion de s'indigner, de se mettre en colère. Il n'a pas été sur Terre comme une espèce de Bouddha qui aurait traversé le monde dans une autre dimension, qui aurait comme ça dispensé sa sagesse, séparé des turpitudes du monde. C'était pas ça en fait. Il était pleinement dans ce qu'il vivait, et aussi pleinement, du coup, parfois dans cette colère, dans cette indignation. Alors, il a été beaucoup plus souvent dans la compassion que dans l'indignation. Donc là aussi, on a l'exemple. J'ai donné là, l'exemple de cette femme qui pleure sa fille morte dans Luc 7. Et en voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Donc cette compassion, bien sûr, c'est un des traits les plus présents, les plus marquants, hein, qui est à la fois divin et humain. Jésus a pu incarner, grâce à son humanité, une bienveillance et un amour qui était divin. Je choisis ce verset parce que je trouvais que c'était intéressant pour la complétude, en fait, à la fois du soin et de l'investissement de Jésus. Il voit, en voyant la femme. Donc on sait souvent, il voit Zachée, il voit souvent, il porte attention à l'autre, il voit. Et puis ensuite, il ressent, il a cette compassion. Et puis ensuite, il parle, il partage. Hein, il lui dit, voilà, ne pleure pas. Et puis ensuite, il va agir. Alors, il va agir là de manière spectaculaire, de manière divine, parce qu'il va y avoir cette résurrection. Mais on voit toute la chaîne d'émotions très, très humaine qui accompagne et qui précède cet acte divin qui est la résurrection. Et puis il a vécu aussi la souffrance ou l'angoisse. On a un verset dans Luc, et puis j'ai mis ici un parallèle dans Hébreu aussi qui l'éclaire. Mais c'est dans Luc 12, hein, il n'y est pas encore, mais il y a cette annonce. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et on n'est pas encore à la toute fin du ministère de Jésus. Mais vous voyez, ça veut dire que quelque part, on voit tout ce qu'il a, toute cette attention qu'il a eue pour les autres. Et en même temps, pendant tout ce moment, là, ce que nous dit ce verset, c'est qu'il a eu cette angoisse qui était là quelque part, parce qu'il allait vers ce baptême dont il devait être baptisé. On a vu tout à l'heure au jardin de Gethsémané comment cette angoisse s'était matérialisée par ces signes physiques. Dans l'auteur d'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, hein, éclaire aussi un peu ça. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Des grands cris, des larmes, des prières, des supplications et une obéissance à apprendre face à ce baptême qu'il allait ressentir. Donc, Jésus a connu une angoisse profonde comme certains la connaissent aussi humainement, de manière, parfois on le sait, parfois on le sait moins. Puis je pense qu'on a sans doute tous eu, à des degrés peut-être divers, mais ces moments voilà, où on sent peut-être complètement dépassé ou impuissant ou face à quelque chose, et cette angoisse là qui est là, ben Jésus l'a vécu par rapport à ce vers quoi il allait pour nous, encore une fois. Donc vous voyez toute cette palette d'émotions humaines en fait que Luc nous décrit de manière parfois très explicite, parfois un peu plus à trait un peu plus caché, mais qui nous rappelle que voilà, il a vraiment pris complètement cette forme humaine et tout notre système d'émotions, et le fait qu'il savait où il allait, le fait qu'il savait ce qui allait se passer, tout n'empêchait en rien, ne neutralisait pas toutes ces émotions qu'il a traversées. Jésus s'est aussi plié aux limitations, aux contingences de temps et d'espace. Ça a été vrai si on part sur le temps, hein, ça a été vrai par le fait que Jésus a dû grandir. Voilà. Et donc on l'a cité, puis Pierre-Yves l'a cité aussi dimanche dernier, mais il y a deux semaines dans son introduction aussi. Hein, il y en a deux dans le chapitre 2 de Luc. On a deux versets à propos de ça, hein. L'enfant grandissait et se fortifiait. Alors c'est marrant, j'ai laissé le en esprit, vous voyez, comme ça, En fait, la plupart des versions ne le mettent pas, hein, c'est grandissez, se fortifier. Certains ont mis en esprit, c'est complètement libre, je me dis peut-être qu'on dit, ah non, mais se fortifier, quand même, on va mettre en esprit, parce que bon, c'est plutôt en esprit, mais manifestement, la traduction, c'est vraiment, ils se fortifiaient, quoi. Voilà, ils se fortifiaient, ils grandissaient, ils prenaient du poids, ils se fortifiaient. Et puis oui, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et un peu plus loin, on a vraiment de nouveau cette double précision. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Intéressant, on a vraiment à la fois ce côté intérieur, mais aussi ce côté extérieur, en taille, et puis devant Dieu et devant les hommes. On a vraiment, voilà, et donc, oui, il a accepté, on a dit, il a accepté d'être un bébé, c'était aussi accepter, du coup, qu'il fallait grandir, qu'il fallait attendre pour avoir cette stature d'adulte, en tout cas dans son corps. Et puis ensuite, il a eu les contraintes du temps et de l'espace qui ont joué dans son ministère. En fait, Jésus a agi là où il était, quand il y était. Voilà, il alla de ville en ville et de village en village. Bah oui, cette ville, et puis le lendemain cette ville, et puis le lendemain ce village, on voit les trajets qu'il doit faire, etc. Il a cette contrainte finalement, de spatiale et de temps qu'il a passé du temps à marcher, à aller d'un endroit à un autre, dans un périmètre finalement forcément un peu restreint par les limitations humaines. Et à ce propos, dans Luc, au chapitre 5, il y a ce moment, vous savez, alors je lis le verset 1, c'est dans Luc 5, au verset 3. Donc la foule se presse autour de lui, il monta dans l'une de ses barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Puis je trouvais ça, en fait, il était là, puis d'un coup la foule arrivait et pressait, quoi. Et donc là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il fasse quelque chose parce que là, il va se retrouver dans le lac. Donc bon, il trouve une barque, il monte dans la barque, tiens, c'est une bonne idée, il recule un peu et puis là, il peut parler à la foule. Donc voilà, il y a un mouvement de foule, on n'a pas assez d'espace dans la salle. En fait, Jésus, il a connu les contraintes logistiques de l'évangélisation, quoi. Et on pourrait se dire, mais ça, c'est pas intéressant quand même. Luc, il aurait pu nous enlever ces 2-3 versets et il nous aurait dit 2-3 versets de plus du discours de Jésus, ça aurait quand même été vachement mieux quand même. On aurait peut-être eu une perle encore. Mais non, en fait, c'était ça aussi. Et être dans les contraintes du temps, de l'espace, c'était aussi ça que Jésus. Et puis derrière, cette contrainte-là, par contre, le fait de se retrouver sur cette barque, ça va ouvrir à la pêche miraculeuse et puis à la belle confession et à la belle conversion de Pierre. Donc bien sûr. Bien sûr, il y a un plan derrière ces contraintes aussi, mais vous voyez comment Luc nous relate tout ça. Et puis, on peut aussi d'ailleurs, Jésus, il s'est inscrit un peu dans un, je sais pas trop, un territoire, une patrie, pas vraiment une patrie, mais c'est dans un terroir presque, hein. Et donc, on voit dans Luc 4, hein, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils lui disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Et Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie à ce que nous avons appris, tu as fait à Capharnaüm. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Ben voilà, il a été à un endroit, il avait vécu là, il avait grandi là, et du coup, il était un peu ramené à ça. Mais toi, tu es le fils de Joseph, et tu es de cette patrie. Et donc finalement, Jésus qui était Dieu, qui était omniscient et tout, il s'est inscrit aussi dans une réalité. Un peu sociologique de territoire et avec tout ce que ça comporte, avec le fait, hein, est-ce qu'on est accueilli ou pas dans sa patrie, reconnu ou pas dans sa patrie, voilà, c'est toutes des choses humaines, d'ailleurs l'expression a perduré, et Jésus a connu aussi cela. Et puis dernier point sur ces dépendances, c'est sa relation, cette dépendance aux autres en fait. Jésus a connu les dépendances ou le lien ou les deux avec sa famille, hein, c'était juste un peu en lien à ce que je disais avant. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. J'aime bien cette petite incise de lui, comme on le croyait. Donc ça rejoint cette idée. Voilà, il arrivait comme fils de Joseph, fils d'Élie dans cette famille. Et puis dans son enfance, ça c'est bien connu aussi. On sait que il a accepté d'être soumis à ses parents, hein. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. C'est après qu'il l'ait perdu et qu'il l'ait retrouvé en train de donner des premières démonstrations de sagesse aux religieux de l'époque. Mais en même temps, il accepte d'être soumis à ses parents. Et puis, dans toutes les relations avec ses disciples, pour ceux qui connaissent ça un peu chaque semaine, Jésus, il a vécu les joies et les frustrations du travail en équipe, hein, du travail en groupe quand même. Les joies, hein, et là, au verset 10, voilà, heureux, hein, il se tourne vers ses disciples, il leur dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Là, on voit qu'ils ont eu un beau moment ensemble. Et puis, par contre, il y a eu des moments plus compliqués, quand un peu plus loin, Jacques et Jean, ils disent, est-ce que tu veux qu'on ordonne au feu de descendre au ciel et de les consumer? Et là, ils se disent, oh là là, mais ils n'ont rien compris. Voilà, on est parfois d'un côté, on est parfois de l'autre, en tant qu'humain, hein, du bon côté, ceux qui se désolent que les autres n'ont pas compris ou ceux qui ne comprennent pas. Mais dans tous les cas, Jésus, voilà, c'est connu, il a cheminé comme ça avec ses disciples, avec toutes les à la fois les belles choses et puis les difficultés, les rivalités, etc. Il a connu cela. Il a connu l'ingratitude. Quand il guérit, hein, les 10 lépreux, Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Donc bien sûr, pour Jésus, l'important c'est qu'ils ne sont pas revenus gloire à Dieu, mais il a connu cette ingratitude. Dans ses paroles à Simon aussi, par rapport à cette femme, hein, cette femme qui vient le nettoyer de son parfum, hein, et Simon qui dit, mais c'est une femme pécheresse. Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Donc il a connu aussi l'ingratitude de ceux qui étaient autour de lui. On peut dire aussi, dans un sens, les déceptions affectives. Voilà, ces disciples qui n'ont pas été capables de veiller 2 heures, qui trouvent endormi cet épisode avec Pierre, où il se retourne et qui regarde Pierre après la trahison. Et donc Jésus a aussi connu cela, et puis il a aussi connu les joies du partage et de l'amitié. Hein, c'est beau dans Luc 5 quand les pharisiens disent, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus lui a répondu, pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. Donc c'est la noce, c'est les joies du partage avec ses disciples. Et puis il a connu, voilà, comme cet Arimathée qui va trouver Pilate après sa mort et qui s'occupe de son corps, qui l'enveloppe dans un drap de lin, qui le dépose dans ce tombeau où personne n'avait encore été mis. Il a eu aussi ces gens autour de lui qui ont pris soin de lui, et donc ces joies-là. Ces joies aussi de l'apprentissage, d'apprendre aux autres, d'apporter quelque chose aux autres. Il priait, et puis quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça a été un beau moment aussi pour Jésus, et puis plus largement du service à l'autre. Hein, voilà, tout ce qu'il a fait en servant, on voit bien que Jésus a pris plaisir dans ce service aux autres, dans cette relation d'apprentissage. Donc, toutes ces dépendances humaines, Jésus les a connus, Jésus les a vécus. Comment il les a vécus? Comment il les a vécus? Il les a vécus de manière pleine et il les a vécus dans l'obéissance à Dieu. Et donc, première chose que je veux mettre en avant, c'est qu'il a vraiment vécu ses dépendances, mais je l'ai un peu dit jusqu'à, de manière concrète, de manière engagée, je dirais. Déjà, il a vécu quand même 33 ans, et puis 30 ans avant que, près de 30 ans avant que son service commence. Donc, l'incarnation de Jésus, c'est une vie. C'est pas une apparition. C'est pas une opération commando. Il a vraiment eu ce chemin-là, en fait. Et sa condition d'homme, eh ben, elle a à voir avec le temps, avec la construction, avec la durée. Et il se passe 30 ans. Et ça nous dit quand même, je trouve, beaucoup de choses. Ça nous dit justement que c'était pleinement la condition humaine, avec le temps, avec ce qui se passe. On va parler aussi du fait qu'il était parfait, et être parfait une semaine, c'est pas pareil qu'être parfait 30 ans. C'est pas évident de tenir une semaine, et donc ça, c'est important aussi quand même par rapport à ce qu'on va dire. Et on voit que du coup, il a vécu ça lui donne aussi, il me semble, une implication réelle dans la vie quotidienne. Et on le voit, je trouve, dans ses paraboles. Dans ses paraboles, il y a plein de petits détails, de petites choses et tout qui montrent qu'il avait vécu. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Il connaissait le prix des moineaux. Donc, il avait vécu. Quand, dans Luc 15, la parabole de la pièce perdue, hein, si une femme a 10 pièces d'argent qu'elle a perdues, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer à la maison, chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et elle dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Alors je prends un peu de liberté par rapport au texte, mais je me suis dit « Peut-être que Jésus l'a vu Marie perdre une pièce. » Il a peut-être vu sa mère perdre une pièce, ils n'étaient pas très très riches. Donc ça... Et peut-être qu'il a vu sa mère chercher partout, etc. Et trouver cette pièce. Voilà, le fait d'avoir vécu, ça lui donne aussi un truc, la façon dont il peut illustrer, dont il peut donner de la couleur, donner de la réalité à ce qu'il dit. Et donc, il l'a vécu complètement. Ça montre qu'il s'est complètement impliqué dans cette vie quotidienne. Et puis surtout, et ça va faire le parallèle avec ce qu'est l'humanité de Jésus pour nous, surtout, Jésus a vécu toutes ses dépendances, toutes ses limites, comme Dieu l'avait voulu et prévu pour l'homme. Il a vécu dans la dépendance au Père. On aura un échange particulier sur la prière dans cet évangile, dans la suite. Mais voilà, on voit souvent la façon dont la dépendance de Jésus au Père se voit par la prière. Elle se voit aussi beaucoup, je trouve, par au moment de l'épisode de la tentation du diable. J'ai remis ici. Ce tableau et je propose qu'on s'y attarde un tout petit peu. On sait que voilà, le diable vient le tenter sur ces trois choses, sur ses besoins matériels, hein, sur que les pierres deviennent du pain, sur le pouvoir et la gloire, en lui disant tu es en haut de cette montagne, tu peux tout avoir. Et puis sur il le tente aussi sur sa divinité, sur le fait d'être invincible, en disant bah vas-y jette-toi et puis des anges viendront pour te protéger. Et donc on voit qu'à chaque fois, Jésus est tenté sur ces trois choses-là. Et en fait, ces trois réponses, donc on va les lire. Premièrement, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Ensuite, Jésus lui répondit, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Et puis plus loin, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. D'abord, j'ai été frappé par quelque chose, c'est que, à juste titre, on dit souvent, il utilise la Bible pour répondre à ses tentations. Mais on voit aussi que dans les versets qu'il utilise, il utilise la Bible en se mettant vraiment à une place d'homme. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Il se met vraiment à cette place d'homme. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et lui seul. À nouveau, à cette place d'homme. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. C'est pas seulement qu'il utilise la Bible pour dire la vérité théologique, c'est qu'il utilise des choses qui étaient des commandements à l'homme par rapport à Dieu. Et à chaque fois, ces trois choses, Jésus accepte la dépendance matérielle, il accepte la prééminence de Dieu, donc une dépendance un peu ontologique, Dieu est au-dessus et moi il accepte ça. Et puis, il accepte qu'il est incarné et que donc... il est soumis à Dieu et sa souveraineté, il ne va pas commander ses anges pour qu'il garde. Donc vous voyez comment à chaque fois, en fait, Jésus accepte ses dépendances et il les accepte dans l'obéissance à Dieu. Et c'est ça qui nous a fait chuter. C'est le fait de refuser d'être dépendant de Dieu. C'est ce qui fait que c'est Adam qui a chuté, mais qu'on voit bien que c'est présent chez chacun de nous. Et en fait, Jésus accepte pleinement ça. Et donc, il est sans péché. 1 Pierre 2, Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de fraude. Et on a lu ce matin, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché ou à l'exception du péché, je dirais peut-être un mot de ça juste après. Donc dernier point, et ce sera un peu plus court, pas sûr. Jésus a connu toutes ses dépendances, il les a vécues dans l'obéissance parfaite. Je voudrais laisser trois choses sur qu'est-ce que l'humanité de Jésus est pour moi. L'humanité de Jésus est ma condamnation. L'humanité de Jésus est ma rédemption. Et l'humanité de Jésus est une inspiration. L'humanité de Jésus, c'est ma condamnation. Parce qu'en fait, Jésus, il a montré qu'une vie d'obéissance était possible en accomplissant la loi. Il a été l'homme juste. Et ça, il a été reconnu par les hommes. Pilate l'a dit, Luc, verset 23, chapitre 23, verset 14. « Je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. » Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Peut-être plus fort encore, le centurion, vous savez, le soldat sur la croix, voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement, cet homme était juste. » C'est intéressant parce que dans d'autres évangiles, c'est « Certainement, cet homme était fils de Dieu. » Là, c'est « Certainement, cet homme était juste. » Et les deux choses sont vraies. C'est parce que cet homme était parfaitement juste. Il se dit « Mais il est Dieu. » Vous voyez, et dans les évangiles, on a ces deux, c'est les deux faces de cette pièce. « Mais certainement, cet homme était juste. » Par le brigand sur la croix aussi, mais j'y reviendrai juste après. Donc, reconnu juste par les hommes, reconnu juste aussi par Dieu lui-même. Dans Luc, on a au moment de son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation, c'est en Luc 3. Et ensuite, il y a cette nuée sur la montagne, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, en Luc 9. Donc Jésus est reconnu comme cet homme juste, pleinement juste, et du coup, par contraste, samedi, le côté accablant de mon péché. Et samedi, ma responsabilité pleine et entière par rapport à ça. Je parlais tout à l'heure dans le verset d'Hébreux 4, on a deux traductions. Soit il a été tenté en toute chose sans commettre de péché, soit tenté à toute chose à l'exception du péché, dit Darby. Et il y a une petite nuance, et c'est tout un débat un peu théologique, sur dire comment Jésus était soumis à la tentation. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été soumis à ces tentations extérieures et à ces difficultés. La traduction « à l'exception du péché » nous montre qu'il n'avait pas à l'intérieur de lui-même, parce qu'il n'avait pas de fraude en lui, il n'avait pas cette convoitise qui l'amenait à pécher. Mais par contre, ça n'enlève rien, parce que Jésus est dans une situation, où, certes, où il n'avait pas le péché en sa nature, mais ça condamne l'homme parce que ça montre que Jésus n'a pas chuté. Et ça démontre qu'il était possible, que la chute n'était pas une conséquence inévitable ou nécessaire du concept de liberté de l'homme et de volonté de relation avec Dieu. C'est en ce sens ensuite que dans l'Épître aux Romains, c'est mis en contraste entre Adam et Jésus, entre la désobéissance et l'obéissance. Donc, l'humanité de Jésus, son humanité parfaite, alors qu'il a vécu toutes les mêmes choses que moi, elle me condamne. Elle me condamne, mais elle est aussi ma solution, ma rédemption. Pourquoi ? Parce que la croix est rendue possible par l'incarnation et par le chemin de Jésus. Dans Hébreux 2, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion, fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il fallait que Jésus soit complètement homme et qu'il soit un homme parfait pour qu'il puisse prendre la punition à ma place et donc me donner le salut. Et en fait, la résurrection et la glorification de Jésus incarné, elle ouvre le chemin pour moi. Et là, je vous propose qu'on relise ce passage magnifique de cet échange avec le brigand dans Luc 23. Parce que ça ramasse plein de choses. L'un des malfaiteurs, donc chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a tout dans ces tellement de choses dans ces quelques mots. Vous voyez, l'humanité de Jésus le condamne parce qu'il dit « Moi, je suis là, j'ai mérité d'être là. » Mais l'humanité de Jésus le sauve parce qu'il dit « Toi, tu es là alors que tu n'as rien fait pour l'être. » Et du coup, ça t'ouvre la possibilité, et tu es Dieu, et ça t'ouvre la possibilité de régner. Et moi, je peux m'accrocher à ça. Je peux être sauvé par cela. Et Jésus le valide en disant « Tu seras avec moi. » Dans le paradis. Donc, vous voyez comment Jésus incarné est ma solution et ma rédemption, parce que du coup, il peut être celui qui fait l'expiation des péchés du peuple. Et ça, après, c'est développé de manière plus doctrinale hein, dans Romains. Je vous lis juste dans Romains 5 quand même, parce que c'est très important. Romains 5, verset 18. De même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Le péché s'est multiplié, l'humanité de Jésus me condamne, la grâce a surabondé, l'humanité de Jésus glorifiée, divin, me donne cette solution. Et Jésus lui-même va inscrire son statut de fils de l'homme en lien avec sa gloire à venir. Quand il fait ses développements prophétiques dans Luc 21, on verra qui, le fils de l'homme, venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire, un peu plus loin, rester en éveil, priant en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le fils de l'homme. Luc, dans le chapitre 22, il répond à ses opposants juste avant la croix, « Désormais, le fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Tous dire « Tu es donc le fils de Dieu ?» Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Voyez comment il ne met pas de côté cet aspect fils de l'homme. Il ne dit pas « Ah non, mais maintenant, je suis dans la gloire et c'est terminé. » Non, c'est le fils de l'homme qui est debout. Donc, il y a vraiment cette continuité qui est là. Et il pensait aussi à ce verset de Zacharie prophétique. « On lui dira « Quelles sont ces blessures à tes mains ?» Et il dira « Celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. » Je me suis dit que c'était aussi une manière d'exprimer là ce que je ressentais sur l'humanité de Jésus comme notre rédemption. C'est que mes amis, vous voyez ces émotions, ces liens, etc. Mes amis, ces blessures, les blessures que j'ai connues. Et ça, il le dira où ? Eh bien, il le dira, voilà, c'est dans l'éternité et c'est au moment où il va nous accueillir. On pense aussi comment il montre ses mains à ses côtés, à ses disciples après être ressuscité. Donc, l'humanité de Jésus et ma condamnation, elle est ma rédemption, elle est aussi une inspiration. C'est le pendant un peu pratique. Il y a une réalité théologique. Le fait que Jésus est une humanité parfaite, ça a un pendant théologique, c'est cette condamnation et cette solution. Et puis, c'est un pendant pratique, c'est que Dieu a en tête pour nous cette vie nouvelle en Jésus, et donc ça ouvre la voie à l'imitation de Jésus dans notre propre chemin. C'est notamment ce que dit Pierre, hein, on peut lire je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je le complète un peu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte. Maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Hébreux 2, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, cet exemple de Dieu parfait, c'est bien sûr, c'est toujours un peu vertigineux aussi quand on regarde Jésus comme un bloc de perfection, mais on peut aussi le voir comme une aide ou un encouragement à une décision ou un comportement donné dans une situation donnée. Par exemple, comment je réponds à quelqu'un qui m'attaque, hein, c'est dans Luc 6, ils observent Jésus, les spécialistes de la loi, les pharisiens, observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat afin d'avoir un motif pour l'accuser. Jésus connaissait leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva, se tint debout et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Et il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Vous voyez, là, il est pris dans un piège, il va être accusé, etc. Là, la réaction de Jésus, elle est très intéressante. Il les prend à partie, il les met face à leur chaise. Il dit, bon, et publiquement, il les oblige et du coup, ils sont pris. Et il peut à la fois guérir et être finalement dévier cette colère. Donc ça peut être ça, ça peut être à quel moment j'ai à m'indigner, hein, là je vais pas venir, mais on l'a vu, parce que quand il s'indigne, dans ce que j'ai lu tout à l'heure dans Luc 11, il accuse les pharisiens de manière très forte, et juste derrière il est dit, il lui tendait des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce qu'il leur avait dit avant, qui était extrêmement violent dans un sens, ben, il pouvait pas l'accuser parce que c'était vrai. Donc là, Jésus nous donne une leçon de dire, bah oui, je peux m'indigner, mais est-ce que je reste factuel, vrai, dans mon indignation? Et donc, on ne voit pas la voie. Voilà, il y a la parabole du bon samaritain, si on se demande auprès de qui on fait compassion, comment je réagis à une tension entre des proches, quand il y a des rivalités entre les disciples, moi, il pourrait... C'est en tant que tel un sujet, donc voilà, mais on voit qu'il peut y avoir tout ça, et initialement, je voulais vous demander en milieu de semaine que chacun réfléchisse à quelque chose où il s'est dit un jour, où il se dit, tiens, la façon dont Jésus a réagi là, ça peut vraiment me donner une bonne piste pour réagir à quelque chose. Voilà. Je ne l'ai pas fait, donc je termine. juste sur, simplement en conclusion et pour revenir en trois points un peu sur ce que j'ai dit. Premier point, se rappeler que Jésus a été pleinement humain dans toutes les limites, toutes les dépendances humaines qu'il a accepté de partager. Deuxième chose, cette pleine humanité, elle n'enlève rien de sa divinité. Pourquoi ? Parce qu'en étant l'homme parfait, il s'est révélé comme Dieu et il a ouvert la voie au salut des hommes, qui est le plan ultime de Dieu. Donc finalement, en s'incarnant, Jésus, il me touche, il m'encourage, il me convainc de péché, il m'ouvre le ciel et il donne aussi des tutos d'une vie pleine de grâce et de sagesse.